Ce matin, pour m'accompagner, une invitée, Madame la bâtonnière Gwenaëlle Vautrin. Vous êtes bâtonnière au barreau de Compiègne. Bienvenue.
Merci. Bonjour.
Bonjour
à tous.
On va revenir très rapidement à quel est le rôle de la bâtonnière ou du bâtonnier.
Alors on peut dire les deux, effectivement, ça ne pose pas problème. Alors un bâtonnier, c'est un avocat qui est élu tous les 2 ans par ses pairs. À Compiègne, l'élection s'est déroulée l'année dernière, donc 80 avocats m'ont fait confiance pour mener tout simplement la mission de représentation du barreau et puis aussi gérer au quotidien tout ce qui va être éventuellement le conflit avec le justiciable ou les conflits entre avocats.
Donc du coup, vous avez un rôle de quoi ? De médiatrice ? Vous avez un rôle de porte-parole ? C'est quoi le rôle exact ?
Eh bien les deux, vous avez raison, on a un rôle très très divers. C'est vrai que le rôle de porte-parole et un peu le rôle politique, c'est accru, puisqu'effectivement nous sommes aujourd'hui à manifester contre le projet de réforme justice, donc ce rôle est devenu très très important. Mais c'est vrai que le rôle de médiateur, on l'a tous les jours, quand il faut potentiellement régler un différend, on va peut-être pas privilégier le courrier, mais avant tout privilégier la petite entrevue, et ça permet bien souvent de résoudre pas mal de difficultés.
On peut revenir un petit peu sur votre curriculum vitae, un petit peu votre parcours, comment vous êtes devenue avocat, comment vous avez voulu devenir avocate ?
Ah, alors par accident, je vous dirais, parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé le droit. Je me destinais à des études pour être professeur à la faculté. Et puis en dernière année, au moment de la thèse, un de mes professeurs m'a dit « Mais vous, c'est le sens pratique, c'est la solution pratique. Ça s'appelle pas prof de fac, ça s'appelle avocat. » Donc j'ai dévié et puis j'ai passé le concours et je ne regrette pas parce que c'est vraiment un métier fabuleux. Et c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, en étant bâtonnier, je me rends compte, parce que je suis une avocate spécialiste, je fais droit du travail, mais aujourd'hui, en abordant toutes les facettes de cette profession, que c'est un métier fantastique, où nous sommes aussi dévoués au sens de la justice, au niveau des justiciables, et on fait plein de choses et plein d'actions qui permettent d'aujourd'hui, avec peu de budget, d'avancer sur pas mal d'actions. Je pourrais vous en reparler tout à l'heure.
Quelles sont les choses qui vous ont un petit peu étonné quand vous avez enfilé la robe, en vous disant, en fait, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Alors là, on va parler de cette réforme, mais est-ce qu'il y a des choses? Vous avez enfilé la robe il y a combien de temps ?
22 ans maintenant, donc depuis un petit moment, presque un quart de siècle. Rien ne m'a étonnée, j'irais. Plus j'avance, plus je me dis que nous sommes des gens de conviction, avec beaucoup de passion. Il faut beaucoup de passion pour faire ce métier, pas compter son temps, effectivement. On le fait tout le temps, sans se poser de questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va en reparler, le nouveau gouvernement, on s'est retrouvé en fait sur une situation où nous sommes des acteurs privilégiés de terrain. Donc la réforme et les idées doivent venir de nous, même localement. Et on s'est retrouvé dans une situation où on s'est rendu compte que nous n'étions pas écoutés, bien au contraire, et que tout devait venir tout simplement de Bercy, puisque ce n'est pas le ministère de la Justice qui a la main là-dessus. Et que, économie budgétaire et réforme locale et ce que nous avons besoin en fait, de voir sur le terrain, on le met de côté en fait.
Aujourd'hui, le barreau de Compiègne, c'est combien de personnes avec les avocats, les juges, les greffiers, les greffières, c'est combien de personnes en tout ?
Alors en ce qui concerne les avocats, il y a 80 avocats, vous comptez 90 personnes salariées, puisque nous avons des assistantes, des juristes. Au niveau des magistrats, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance qui ont vocation à fusionner, le tribunal de commerce et également le conseil des prud'hommes. Je vous dirais qu'à vue donnée, on est, notamment avec le conseil des prud'hommes qui a beaucoup de magistrats, à 60 magistrats environ.
C'est quoi la différence entre les différents tribunaux ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, du coup, les prud'hommes, on sait ce que c'est, mais du coup, la différence avec les autres tribunaux ?
Alors, en fait, quand vous avez un problème, qu'on va appeler litige dans notre jargon, cette problématique va être jugée par un tribunal en fonction de sa compétence. Donc effectivement, le contrat de travail appartient au conseil des prud'hommes. Vous aurez un litige commercial, ce sera le tribunal de commerce. En fonction après du montant de votre demande, vous allez être jugé au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance. Et après, on a les juridictions pénales, donc tout le répressif, tout ce qui va être tribunal correctionnel, tribunal de police. Et puis après, et ça c'est important parce que Compiègne est fortement impliqué depuis 2003 sur cette démarche, 2 juges pour enfants qui font un travail quotidien remarquable.
Vous êtes plutôt du côté du travail, c'est ça ? Vous êtes juge, vous êtes avocate au prud'homme ?
Alors moi, je suis une spécialiste effectivement du droit du travail et de la protection sociale. Donc je suis effectivement plus à plaider devant un conseil des prud'hommes ou maintenant, c'est ce qu'on appelle depuis le 1er janvier 2019, le TGI Pôle Social, puisque c'est un des aspects de la réforme. On a disparition du tribunal des affaires de sécurité sociale au 31 décembre 2018.
Donc là, c'est un tribunal qui va disparaître à Compiègne ou c'est un tribunal qui a été déplacé à Beauvais? C'est
comment? Alors, historiquement, nous avions un seul tribunal des affaires de sécurité sociale qui était à Beauvais. Donc Beauvais, tout simplement, va avoir maintenant ce tribunal de grande instance Pôle Social.
Là, qu'est-ce que vous jugez? Qu'est-ce que vous plaidez? C'est donc là des indemnités suite à des accidents de travail, ce genre de choses,
c'est ça? Oui, le TGI Pôle Social, c'est la juridiction qui va apprécier toute la problématique en fait, des prestations sociales, de l'accident du travail, et puis aussi des différends que vous avez avec les caisses, l'URSSAF notamment. Et c'est un contentieux très technique et très spécialisé.
Quelle est la réforme aujourd'hui qui est mise en place? En plus, elle a été mise en place quand vous êtes arrivé en tant que bâtonnière?
Alors, le projet de réforme, effectivement, qui est toujours en cours, il est parti d'un bon sentiment. Il était de dire, voilà, cette justice en France, elle souffre parce qu'elle n'a pas d'effectifs, elle n'a pas de moyens. Donc, à partir de là, on va lui permettre de fonctionner normalement. Et au départ, nous étions effectivement assez favorables à cette réforme parce qu'on nous avait dit, le budget de la justice va augmenter de 26%. Par contre, dans les faits, c'est ce qui nous a vraiment, je dirais, impacté et troublé, c'est que le budget, en fait, qui a été donné en plus à la justice, il n'est pas pour les tribunaux. En fait, il est pour le pénitencier, ce qu'on appelle administration pénitentiaire. Pourquoi? Parce que, vous vous souvenez de l'actualité l'année dernière, ça a flambé au niveau, tout simplement, des prisons, parce que les conditions de détention sont quand même inhumaines. Et il faut savoir aussi, la France est dans le collimateur des juges européens, et vous avez plusieurs dossiers, en fait, devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait que si un jour la Cour statue en disant la France c'est inadmissible, vous devez revoir vos prisons, il y a des condamnations avec plusieurs millions d'euros qui sont à la clé. Donc en fait, le gouvernement actuel a pris les devants en disant, vous inquiétez pas, je vous rassure, vous l'Europe, je vais vous mettre un budget conséquent, ce qui fait qu'on va créer des prisons et rénover les nôtres. Donc, ce qui concerne les tribunaux, on s'est retrouvé avec rien. Et quand je vous dis rien, c'est qu'on nous a dit en début d'année, on a fait un petit audit de votre profession et on se rend compte que dans l'Oise, vous avez 3 tribunaux de grande instance. Pour des raisons d'économie, il ne faut plus qu'un seul tribunal.
Donc on a déshabillé Jacques pour habiller Paul, c'est ça un petit peu?
Alors, le projet de réforme initiale que nous avons accompagné, c'était effectivement de dire, écoutez, il va en rester un. Alors, évidemment, Compiègne était mis de côté. C'est vrai qu'on a un tribunal qui est un peu vétuste, parce que c'est le plus vétuste des trois, sur l'Oise, c'est le plus petit. Et puis, notre crainte à l'époque était effectivement de se voir transférer en totalité, soit sur Beauvais, soit sur Senlis. Alors, cette réforme initiale a été abandonnée. C'est-à-dire que vous avez une manifestation en février 2018, nous étions plus de 4000 dans la rue à Paris. Et la chancellerie nous a dit, écoutez, j'ai entendu ce que vous m'avez dit, on va discuter maintenant. Et nous avons des instances nationales qui ont négocié pendant plusieurs mois, jusque fin octobre, pour avoir effectivement des avancées, et notamment, nous, ce qu'on appelle sur le maintien des territoires.
Donc c'est des syndicats, en fait, qu'il y a chez les avocats? C'est un syndicat d'avocats?
Alors, vous avez des syndicats, mais aussi nous avons des instances nationales. Alors, on a la conférence des bâtonniers, qui est représentée par Jean Gavaudan. On a le Conseil national des barreaux, par Madame Ferral-Schul. Et on a surtout un acteur très important, qui représente 50% des avocats en France, qui est le barreau de Paris. Donc, avec notre bâtonnière à l'époque de Paris qui est montée au créneau aussi. Et ces trois instances, en fait, du mois de mars au mois d'octobre, ont négocié avec la chancellerie pour avoir des avancées sur ce texte.
Quel est le pouvoir de nuisance des avocats? Comment on peut rentrer dans une bataille, rentrer dans un rapport de force avec les ministères, par exemple?
C'est difficile, parce que c'est vrai que notre combat, on est plus pour les citoyens sur des droits virtuels. C'est vrai qu'on ne va pas au tribunal tous les jours, c'est pas comme l'hôpital. Donc c'est toujours difficile d'être entendu et d'être audible. Alors c'est vrai que sur toute l'année écoulée, et c'est vrai que j'ai ramené mon gros dossier, je me rends compte du travail vraiment incroyable qui a été fait. Alors on va faire dans un premier temps beaucoup d'actions de lobbying, c'est-à-dire qu'on va avertir notamment les maires, notamment les députés, les rencontrer pour leur expliquer notre combat. Et c'est vrai qu'au niveau des citoyens, ce qui va être visible, et c'est ce que la presse d'ailleurs va relayer, c'est nos actions un peu coup de force. Ça peut être effectivement nos manifestations dans les rues, c'est ce que nous avions fait avec les élus au mois d'avril 2018. Ce seront aussi et malheureusement quelquefois aussi, des blocages de tribunaux, ce que nous avons fait en décembre. Et c'est vrai que la presse nous suit énormément sur ces actions parce qu'elle se dit, si les robes noires vont vraiment dans le dur comme ça, c'est qu'elles ont un message à faire passer et il faut qu'elles soient entendues. Et voilà, ce sont un peu nos moyens d'action.
On a vu des images un peu fortes entre des robes noires en train de se faire un petit peu secouer par des policiers devant des tribunaux. Ça marque aujourd'hui de voir des avocats dans la rue?
Oui, ça marque. Et puis les images dont vous faites état, effectivement, ça s'est passé à Rouen. Il y a eu un combat très très dur sur ces avocats qui ont bloqué la cour d'appel pendant plusieurs jours. Oui, ça marque parce que c'est pas courant. Et c'est vrai qu'un avocat, pour qu'il arrive à ces extrêmes, c'est que vraiment il se passe quelque chose et qu'on a besoin d'être entendu et qu'on manifeste pour des choses qui sont vraiment, je dirais, cruciales pour les citoyens.
Souvent les policiers sont souvent un peu des collègues. Vous travaillez régulièrement avec eux, vous les côtoyez au quotidien. Donc c'est un peu quand on voit les pompiers se fighter un petit peu avec les policiers, où là on se rend compte qu'il y a un sérieux souci, c'est à ce moment-là ?
Oui, c'est clair. Et puis vous avez raison de le dire, le monde judiciaire, les gendarmes et les policiers en font partie. Et pour rien vous cacher, d'ailleurs, de nos interactions, on arrive à voir qu'il y a des problématiques. Et je vous le donne effectivement en prime. C'est que nous aurons une action d'ailleurs commune, gendarmes, policiers, et Madame le procureur de la République est très investie sur ces questions, où au mois de mai, on va en fait inviter les collégiens de 5e à parler drogue dans tous les collèges de Compiègne, mais aussi des environs. Il y aura Noyon, il y aura Resson, il y aura Étré. Et on va en fait s'investir dans des actions communes pour dire, écoutez, en ce moment, on vous vend un crack qui est absolument épouvantable et qui, malheureusement, va vous mettre dans la dépendance dès la première prise. Donc ça, vous voyez, ce sont des actions communes, locales, qui font que, bah oui, on peut être partenaire un jour et puis de temps en temps, être en confrontation le lendemain. Mais je vous dirais, ça se passe de manière extrêmement courtoise.
Vous avez dit tout à l'heure que vous avez le soutien des maires. Pourquoi les maires vous soutiennent ?
Alors, les maires aujourd'hui, et vous l'aurez compris avec l'actualité, sont confrontés à la problématique des gilets jaunes. Et dans les problématiques qui sont remontées, il y a les déserts judiciaires. J'étais d'ailleurs un peu effarée d'entendre un membre du gouvernement qui disait, voilà, je suis allée discuter avec une gilet jaune qui m'a dit, mais c'est incroyable, il me faut 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un dermatologue. Nous, c'est notre quotidien. C'est le quotidien du maire qui a la doléance, effectivement, de ses concitoyens, qui a lui dit, écoutez, on n'en peut plus, la maternité est encore fermée, tel cabinet de spécialistes a disparu et n'est pas remplacé. Et le maire aujourd'hui entend quand on lui dit, écoutez, vous êtes confronté au désert judiciaire et demain ce sera le désert. Pardon, vous êtes confronté au désert médical et demain, eh ben, vous serez confronté au désert judiciaire. C'est-à-dire que bah, vous aurez votre concitoyen qui va venir en disant bah, « je suis allé à Compiègne au greffe pour déposer tel dossier » et on m'a dit bah, « non, c'est pas possible, il faut que j'aille à Beauvais. Il n'y a pas de train pour y aller, le bus n'en parlons pas. » Donc voilà effectivement le projet de loi tel qu'il se dessine aujourd'hui.
Surtout Compiègne, ce n'est pas une petite ville.
Mais non, ce n'est pas une petite ville. Et puis, quand vous comptez le ressort du tribunal, on est effectivement sur 400 000 personnes qui dépendent du ressort de Compiègne. Donc, évidemment, il y a Compiègne, ville principale, mais vous avez des villes comme Noyon, il y a Resson, Lassigny. Il y a 5 communautés de communes, en fait, qui dépendent de notre ressort de tribunal. Et donc, on est sur un ressort important.
C'est combien de temps le délai de traitement d'une affaire, en général, en moyenne ?
Alors, ça va dépendre du tribunal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, faut pas se leurrer, il y a un manque d'effectifs important. Les délais restent néanmoins raisonnables sur le ressort. Si vous regardez le Conseil des prud'hommes, on est plutôt à des délais, je dirais, très restreints, qui sont de l'ordre de 6 mois. Vous allez en région parisienne, on est à 17 mois, 18 mois. Donc, on reste sur des délais tout à fait normaux. Et puis, tribunal de grande instance, tribunal d'instance, ça va dépendre effectivement de la matière. Mais lorsqu'on regarde effectivement le peu de moyens qui est mis en face de ces magistrats et ces greffiers qui s'investissent de manière formidable, le délai de traitement reste raisonnable.
Pourquoi faut-il traiter un dossier très rapidement, en moins de 6 mois ? C'est quoi l'intérêt pour le justiciable ?
Mais souvent, quand vous êtes au Conseil des prud'hommes, il y a une réponse par rapport à une situation d'urgence. C'est-à-dire que lorsque vous êtes licencié du jour au lendemain, pour faute grave par exemple, les revenus, vous les perdez. Il y a une situation de chômage. Donc, il y a souvent une réponse à donner à une situation qu'on peut qualifier de détresse dans la plupart des cas.
Il y a des systèmes d'urgence si quelqu'un se fait licencier, n'a pas ses papiers pour pouvoir s'inscrire au chômage ou ce genre de choses. Est-ce qu'il existe des appels d'urgence un petit peu ?
Oui, tout à fait. Vous avez une procédure de référé qui va vous permettre effectivement entre le moment du dépôt de la demande et l'audience d'avoir un traitement à 2 à 3 semaines. Surtout, et d'ailleurs il ne faut pas avoir qu'une critique négative de la loi, avant que M. Macron ne parte en fait du gouvernement, il a fait voter une disposition extrêmement importante qui est peu connue des justiciables, qui permet en fait à une personne qui a quitté une entreprise et dont l'employeur refuse en fait de délivrer les documents de fin de contrat de travail, et la fameuse attestation Pôle emploi qui permet l'ouverture des droits, eh bien en fait, c'est le tribunal qui peut se substituer et prendre une ordonnance qui vaut inscription Pôle emploi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était attendu depuis plusieurs années et qui permet de résoudre des situations de détresse.
Donc là, il faut avoir ses fiches de paye ou avoir des justificatifs comme quoi on a été embauché pendant X années ?
Voilà. Donc il faut juste effectivement prouver le lien contractuel avec l'entreprise, les bulletins de salaire, le contrat de travail, prouver qu'il y a rupture aussi. Et là, l'ordonnance qui va être prise vraiment en 3 semaines va vous permettre de vous inscrire à Pôle emploi.
Les documents administratifs, les bulletins de salaire, ce genre de choses, c'est vraiment des choses qu'il faut garder et qu'il faut trier. Il faut avoir un petit peu une gymnastique comme ça.
Il faut garder. Il faut garder parce que souvent, nous, les contentieux que nous avons, quelquefois, ça arrive 30 ans après. C'est-à-dire, lorsque vous vous inscrivez à la retraite et que vous n'avez pas regardé votre relevé de carrière, c'est des documents qu'on va vous demander très souvent. Et ça, il faut vraiment tout garder. Et puis, souvent, même sous clé USB, mais je dis, il faut garder les originaux, ça prend de la place, mais c'est nécessaire, indispensable.
Je crois qu'il existe de la part de l'État un coffre-fort numérique où on peut mettre ses documents.
Oui, tout à fait.
Donc maintenant, on peut faire comme ça. Ouais.
Vous pouvez faire comme ça, mais imaginons un jour qu'il y a un bug, il faut revenir à l'ancien système qui est le papier.
On va faire une courte pause musicale. J'ai choisi un morceau en rapport avec, ça s'appelle The Law, et on écoute ça, on se retrouve juste après. C'est la matinale de Graphit, on est ensemble pendant une petite heure. Mardi 15 janvier, Graphite et le cinéma Le Majestic vous proposent Cinéculte hors série avec le film de Luc Besson sorti en 88, Le Grand Bleu. Cinéculte, mardi 15 janvier à 20h dans la salle Ice pour le film Le Grand Bleu. Version longue, version française, tarif unique 8€. Informations et réservations www.majestic-compiègne.fr. Cinéculte hors série Le Grand Bleu, mardi 15 janvier à 20h. Voilà, il est un peu poussif hein, ce spot radio qu'on a fait vendredi. Donc on vous rappelle que ce soir vous pouvez nous retrouver au cinéma Le Majestic pour Cinéculte avec Le Grand Bleu. Et également il y a un film sur Nuit et Brouillard, sur une personne du Compiénois qui s'est fait déporter à Nuit et Brouillard. Et c'est également ce soir, donc soit vous choisissez les Cinécultes, soit vous allez voir quelque chose de plus intelligent. Enfin, venez au cinéma Le Majestic ce soir avec grand plaisir. Toujours avec la bâtonnière Gwenaëlle Vautrin pour nous parler de cette réforme du tribunal et cette réforme de la justice. C'est pas que le tribunal en fait qui est mis en jeu.
Ah oui, tout à fait. On est sur une réforme de grande ampleur parce qu'on est effectivement aujourd'hui sur un gouvernement qui veut aller très vite sur pas mal d'aspects, et notamment le service public de la justice. Alors, nous pensions légitimement que parce que justement nous sommes le service public de la justice, que le projet de loi qui va être examiné à partir de demain serait retiré, puisque à partir de demain, effectivement, va débuter cette fameuse concertation avec les Français. Et malheureusement, nous sommes mis de côté. Ça prouve effectivement le peu de cas, malheureusement, qu'on fait. De ce projet. Mais il est de grande ampleur parce qu'on parlait tout à l'heure des territoires. Oui, nous, c'est notre cheval de bataille numéro un. Pourquoi ? Parce qu'on nous a dit 31 octobre, écoutez, on va maintenir tous vos lieux de justice. Donc TGI, Compiègne, Senlis, Beauvais, ce sera maintenu. Par contre, vous inquiétez pas, on va spécialiser un petit peu vos tribunaux. Donc, il y aura un petit peu de dossier qui va partir de Compiègne et il y en a de Senlis qui vont arriver chez vous.
C'est quoi les spécialités qui vont être mises du coup ?
Justement, on ne le sait pas. Et okay. On a demandé à corps et à cri qu'une liste soit faite, qu'on nous définisse effectivement ce que sera le volume de dossier. Et quand on a demandé à avoir des garanties dans le projet de loi, on nous a dit non, ce ne sera fait que par décret. Donc c'est là où le bât blesse, parce que lorsque les négociations ont eu lieu pendant des mois avec la chancellerie, on nous a dit ne vous inquiétez pas, ces dossiers-là, c'est vraiment du marginal, c'est du contentieux de niche, c'est une dizaine de dossiers de temps en temps. C'est des dossiers, on nous a dit, faible volumétrie, haute technicité, dans le jargon un peu technique.
C'est quoi concrètement en fait ça pourrait être, vous pourrez statuer sur quoi ?
Par exemple, si je me réfère à ma matière, c'est des élections professionnelles. Il y a eu des élections dans une entreprise, les syndicats contestent, allez, c'est 10 dossiers qui vont passer dans tous les tribunaux de l'Oise. Donc voilà, ça c'est du contentieux spécialisé. Si on regarde un peu la matière pénale, ça pourrait être le droit de la chasse. Pourquoi pas Compiègne, historiquement, a un contentieux. Mais là, effectivement, c'est des contentieux, et puis tel que ça nous était défini, qui nous rassurait, parce qu'on s'est dit, bon, droit de la chasse, élection professionnelle, vous voyez, ça n'allait pas changer la donne. Par contre, quand on a commencé à regarder les amendements, on n'était plus du tout sur le même tempo, c'est-à-dire qu'on parlait de compétences complètes, du contentieux civil, et là, lorsque vous regardez par rapport au volume de dossiers sur Compiègne, on peut se dire qu'il y a 500 dossiers, voire plus, qui partent du jour au lendemain sur Senlis au Beauvais. Donc, entre ce qui a été dit et ce qui est écrit, on n'est pas du tout rassuré, c'est pour ça qu'on manifeste et qu'on est contre le projet de loi sur l'aspect territoire.
Qu'est-ce que vous apportez ? Qu'est-ce que voulez-vous comme changement exactement ? Parce qu'il y a souvent on fait une proposition, vous avez fait une proposition au gouvernement ?
Alors, nous,
sur cette modification, s'il y a une modification possible, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous ?
Alors, nous, sur les aspects de la spécialisation, on est totalement favorable. C'est vrai qu'on a, avec des groupes de travail, commencé à réfléchir ce que pourrait être le contentieux spécialisé. Donc, on a fait effectivement un certain nombre de propositions. Mais de toute manière, j'ai tendance à dire, aujourd'hui, on ne discute plus et on ne travaille plus en groupe de travail parce qu'on nous a dit, ce ne sera pas inscrit dans la loi. Donc, on sait qu'uniquement le gouvernement l'aura la main demain par voie de décret pour nous dire, voilà, ce sera comme ça et vous n'aurez pas de phase de négociation. Alors, on nous dit, mais vous inquiétez pas, ce sera négocié au niveau de la cour d'appel ou autre, mais toujours aujourd'hui dans l'aléa, puisque rien n'est inscrit dans le projet de loi. Donc c'est cet aléa et le fait qu'on ne veuille pas mettre par écrit les engagements qui ont été pris, qui fait qu'aujourd'hui nous ne sommes plus du tout en situation de confiance et que nous sommes dans la défiance.
Pourquoi vous n'avez pas rejoint les Gilets jaunes ? Pourquoi il n'y a pas une convergence des luttes par rapport à ça ? Est-ce que vous vous êtes posé la question de vous dire, est-ce qu'on va manifester avec les Gilets jaunes pour également faire entendre notre voix ?
Alors, les Gilets jaunes, effectivement, manifestent avec ce signe distinctif et nous, effectivement, on reste les robes noires. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une approche avec eux où nous sommes en dialogue constant. Parce que vous avez eu notamment, nous avions fait une itinérance après celle de M. Macron, donc nous avons manifesté sur plusieurs tribunaux dans le ressort des Hauts-de-France, et les Gilets jaunes avaient demandé à prendre la parole à Douai. Et c'est vrai qu'ils nous ont dit spontanément, vous savez, quand vous parlez procès justiciable, si aujourd'hui on déporte à plusieurs centaines de kilomètres notre procès, c'est nous, le justiciable Gilet jaune, qui va en subir les conséquences parce qu'il y aura moins de pouvoir d'achat et le plein d'essence c'est pour nous. Donc voilà, notre combat effectivement se fait en parallèle et ils ont conscience aussi que demain, ça va les concerner.
Il y a déjà eu des petites fermetures de tribunal. Le tribunal de Péronne a été divisé par deux, je crois, ce genre
oui,
de choses.
Oui, tout à fait.
Donc à l'avenir, c'est quoi ? C'est vraiment de réduire le nombre de tribunaux et puis de vendre ensuite les bâtiments ?
Alors, la réforme dont vous faites état, Perronne, c'est effectivement la réforme Dati qui avait été menée de manière plus drastique et vraiment dans un temps plus limité. Et là, on avait dit de manière, on avait annoncé, on va dire, la couleur tout de suite en disant il y aura fermeture et il n'y aura pas d'autres possibilités. À Compiègne, et ça avait porter effectivement ses fruits, c'est qu'en fait l'agglomération de la région de Compiègne avait dit voilà, Compiègne est menacée, ce que je fais, je vais acheter un bâtiment, en l'occurrence les anciens locaux de la Banque de France, et je vais proposer à la chancellerie d'héberger gratuitement le Conseil des Prud'hommes et le Tribunal de Commerce. Ce qui avait permis d'ailleurs, à l'occasion de cette réforme de 2008, à ce que nous récupérions notamment un Tribunal de Commerce, puisque celui de Senlis avait été fermé, et de pouvoir maintenir en fait le niveau d'activité des juridictions sur Compiègne. Aujourd'hui, le débat est, à mon avis, plus pernicieux, parce qu'on nous dit vous inquiétez pas, on va commencer à transférer un peu de dossiers par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, on n'en est pas du tout à quelques dossiers, on est à des volumes importants. Notre crainte, c'est quoi? C'est qu'on nous dise, voilà, on va commencer en 2019 à transférer 500 000 dossiers, et dans deux ans, on va nous dire, attendez, on ne peut pas maintenir le niveau des effectifs en tant que tel sur le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance, et dans deux ans, on va dire, écoutez, on ferme, ça n'a plus de sens, c'est un tribunal qui est une coquille vide. Et c'est ça, aujourd'hui, le débat, en fait, hein, au niveau des territoires.
C'est quoi? C'est des rapports d'économie, enfin, c'est des échelles d'économie économique, c'est quoi le but final? C'est de, parce que la rentabilité dans la justice, elle n'existe pas en fait, hein, c'est du service public. Hein. Comment on calcule une rentabilité d'un tribunal? C'est le nombre d'affaires qui passent et c'est quoi exactement?
Bah, la rentabilité aujourd'hui telle qu'elle est vue au niveau du gouvernement, c'est faire une économie d'échelle, en tout cas sur des sites. C'est-à-dire que si vous fermez un site et vous vendez les bâtiments, je pense au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, c'est que bah, il n'y aura pas besoin d'affecter du personnel sur place, il n'y a pas de loyer, il n'y a
c'est
pas
du foncier
de,
des flux,
voilà, c'est du foncier, c'est des économies de fonctionnement, c'est le chauffage, c'est toutes ces choses-là. Donc ça permet effectivement d'avoir une économie drastique tout de suite. Par contre, au niveau effectivement des citoyens, bah, c'est tout simplement ne plus permettre d'avoir accès à un juge bah, qui est à votre porte et devoir tout simplement faire des kilomètres. Et quelquefois, nous, on s'en est rendu compte effectivement avec la première réforme Macron qui a touché le Conseil des Prud'hommes. C'est que c'était la juridiction de proximité par excellence. Vous arriviez au greffe, vous déposiez votre feuille manuscrite et comme c'était une juridiction de proximité, ça va les saisines. Et tout de suite, ces personnes qui n'avaient pas nécessairement les moyens avaient accès à un juge. Et ça permettait de résoudre les difficultés quelquefois en une seule audience au bureau de conciliation. Et aujourd'hui, depuis septembre 2016, vous arrivez au Conseil des Prud'hommes avec votre feuille, ça ne marche plus. Il faut une requête de 8 pages, il faut déposer des pièces. Et depuis, en fait, le 1er septembre 2016, on a perdu toute une frange de citoyens qui avaient accès à cette justice et qui ne l'ont plus. Et c'est vrai que, bah, en tant que bateau, ça avait attiré l'attention des pouvoirs publics en mars 2018 en disant, voilà, on est très embêtés parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes en nombre, et c'est important, qui nécessairement ne vont pas aller voir l'avocat parce que ça coûte cher, et qui aujourd'hui n'ont plus accès à la justice. Et notre crainte, c'est de voir le modèle Conseil des Prud'hommes copié-calé sur les autres juridictions du tribunal d'instance du TGI, avec aussi des accès à la justice qui vont être refusés parce qu'une distance fait que nécessairement on ne va pas prendre sa voiture quand on n'a pas de voiture, et puis on ne va pas nécessairement prendre le train quand il n'y a pas de train, ce qui est le cas dans notre département.
Il y a les délais aussi qui ont été réduits, il me semble, je crois.
Oui, quand j'ai débuté, vous pouviez attaquer votre licenciement. Le délai était de 30 ans. Aujourd'hui, il est d'un an. Et un an, c'est bref. Et pour rien vous cacher, c'est vrai que j'ai beaucoup plus aujourd'hui d'actions qui sautent parce que le délai n'est pas respecté que dans le passé.
Ouais, est-ce qu'il peut y avoir aussi des problèmes du coup plus de personnes? C'est-à-dire les personnes se font licencier, elles rentrent dans une déprime, elles n'ont pas forcément envie d'attaquer, elles réfléchissent à voir est-ce qu'elles veulent vraiment rentrer dans cette logique-là, parce que c'est long aujourd'hui un jugement des prud'hommes.
Bah, je vous disais tout à l'heure, à Compiègne, on a cette chance
six
que
mois,
ce
ouais.
soit voilà, un délai très raisonnable, mais là vous mettez le doigt effectivement sur quelque chose d'important, c'est que un procès, on s'est rendu compte avec le temps que c'était pas nécessairement une demande avec de l'argent. Souvent on entend les clients qui nous disent, écoutez, moi j'ai juste besoin d'être entendu, j'ai juste besoin de voir qu'un juge a écouté mon dossier. Et même quelquefois, on sort de jugement de conseil des prud'hommes, de salle d'audience, et ils nous disent, écoutez, que j'ai perdu ou pas, que j'ai gagné, je m'en moque, je sais
jugé,
qu'ils m'ont
quoi.
Écouté, voilà. Il y a une espèce, je veux dire, d'émotion qui tombe à ce moment-là. Et combien de fois j'ai entendu des personnes qui m'ont dit, écoutez, je ne pourrais refaire une carrière professionnel que quand je serais passé qu'on m'aura écouté. Et c'est ça en fait la vocation aujourd'hui du juge, on l'oublie quelquefois, et elle est totalement à l'opposé aujourd'hui de celle de Bercy qui n'entend pas effectivement qu'un juge, qu'un procès, qu'un accompagnement avec un avocat, bah, c'est une émotion qui va être tranchée ce jour-là et qui va faire beaucoup de bien effectivement à un client et à un citoyen.
Le plafonnement des indemnités prud'homales, ça a été également voté récemment. Aujourd'hui, ouais. C'est pas forcément appliqué par les tribunaux.
Alors, ça l'a été pendant pratiquement 18 mois. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est fortement attaqué. Vous avez trois conseils des prud'hommes, Amiens, Lyon et Troyes, qui ont dit que le plafonnement des indemnités n'était pas valable, en se fondant d'ailleurs sur des règles européennes. Donc oui, c'est en débat actuellement et ce sera effectivement porté après en appel et en cours de cassation. Mais c'est vrai que ça remet, je dirais, à plat aujourd'hui un des fondamentaux d'une des ordonnances Macron.
Là, c'est compliqué. Est-ce que du coup, en fait, les avocats et les juges bypassent un petit peu la loi, utilisent la loi européenne pour appliquer en fait un nouveau barème, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait, puisque le barème aujourd'hui est tarifé en fonction de votre ancienneté. Votre ancienneté égale un tarif d'indemnisation. Alors c'est une fourchette basse et une fourchette haute. Et aujourd'hui, les conseils des prud'hommes par trois jugements ont dit, écoutez, nous, ce barème, on s'en fout. On considère en fait que ce qui va être le préjudice d'un salarié qui a été licencié, c'est tout son préjudice. Donc il ne peut pas être tarifé, c'est tout le préjudice qu'il va avoir lui personnellement. Il va perdre sa maison, il va perdre effectivement...
Peut-être divorcer. Voilà,
tout à fait. Ce qui n'était plus possible effectivement avec les barèmes Macron.
Ça c'était quoi ? C'était une demande du patronat en fait, ce problème de barème ?
Disons que ça a été, de mon point de vue, une réflexion au niveau gouvernemental parce que vous avez un certain nombre de pays européens qui ont adopté ce barème et lorsque vous avez des investisseurs étrangers, ils vont regarder si effectivement le barème existe ou pas. Et pour rien vous cacher, quand le barème est paru en septembre 2017, le mois suivant, les Pays-Bas l'adoptaient. Parce qu'ils se sont dit, là, la France a un avantage par rapport à nous sur les sociétés étrangères qui vont s'installer. Donc c'était plus une réflexion au niveau des investisseurs étrangers.
C'est vraiment un benchmarking entre
tout
les
à
États.
Fait.
Quoi.
Ce qui vient fragiliser aujourd'hui, quelque part, les investisseurs qui partaient du principe que la France, effectivement, avait peut-être des juges qui, justement, prenaient en considération l'entier préjudice. Et le fait qu'on avait aujourd'hui un tarif par rapport à l'ancienneté permettait de sécuriser un investissement.
On a une belle victoire des salariés, par exemple, Continental, où justement, ils ont eu une prime extra-légale assez conséquente. Est-ce que c'est ça qui a pu jouer, en fait, suite à ces modifications qu'on retrouve aujourd'hui, par rapport aux primes qu'ils ont pu avoir ?
C'est vrai que le procès Continental a eu une grosse, je dirais, influence sur l'étranger, notamment l'Allemagne. Oui, c'est certain. Il y avait une volonté, lorsque les ordonnances ont été prises, de sécuriser ce contexte-là.
Ça, c'était fait pendant que Macron était à Bercy ou déjà... Non, c'était déjà en fait président.
Alors, tout ce qui était effectivement la réforme du contentieux, donc de la juridiction du Conseil des prud'hommes, ça s'est fait quand il était encore au gouvernement. Par contre, les ordonnances, ça s'est fait après.
Oui, il a commencé et ensuite il a appliqué. Oui, comme... Là, aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec les avocats, il me semble. Aujourd'hui, on enregistre
demain.
Le lundi, mais ce sera demain. Du coup, ce sera le mardi. Qu'est-ce que vous allez faire exactement aujourd'hui ?
Alors, manifestation nationale, on refait effectivement la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire que manifestation unitaire, magistrats, avocats et greffiers, et nous partons en bus d'ailleurs avec le barreau de Douai et nous partageons les bus avec des magistrats également, et nous manifestons tout simplement pour le retrait du projet de loi. Parce qu'on a parlé effectivement des territoires, mais il faut voir aussi qu'on a plein d'incidences indirectes, et par exemple une incidence pratique importante. Demain, ce ne sera plus le juge qui fixera, par exemple, les pensions alimentaires, ce sera le directeur de la CAF, donc Caisse d'allocation familiale. Alors, c'est un peu surprenant, on nous dit que c'est pour accélérer les procédures, ce sera bien mieux, sauf que seul un juge a cette capacité à prendre une situation familiale dans son intégralité, plutôt qu'un instant T de 10h à 10h10, un directeur de CAF qui a son intérêt à dire « écoutez, on va aller très vite, et puis basta, ce sera comme ça ». Ça, c'est une vraie problématique aussi sur le droit des justiciables, parce que des pensions alimentaires, on sait qu'il y en a énormément. Donc, il y a tous ces aspects de la loi qu'on conteste, et on pensait effectivement que, puisque les citoyens, aujourd'hui, sont interrogé sur les services publics et l'organisation de l'État, que le projet de loi serait retiré, ce qui n'est pas le cas. Donc on manifeste aujourd'hui à Paris pour demander le retrait du projet de loi.
Donc là, c'est une manifestation traditionnelle, hein, vous marchez d'un point A à un point B.
Tout à fait, on part place Saint-Michel et puis on va jusqu'aux Invalides.
D'un point de vue, comment ça se passe sur la hiérarchie en fait, dans un tribunal ? Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui peut faire le lien entre le ministère et puis le tribunal, puisque vous c'est pour les avocats, mais pour les juges, etc. Ça se passe comment ?
Là, effectivement, sur les personnes qui vont manifester avec nous, donc ce sont des syndicats hein, de magistrats qui appellent à manifester. Donc voilà, il y a l'USM notamment, qui est le principal syndicat des magistrats. Et puis des conseillers prud'hommes qui s'y rendent aussi parce que leur juridiction aujourd'hui est aussi sur la sellette, puisqu'ils ont eu la désagréable surprise d'apprendre dans le projet de loi, ils n'étaient pas au courant, qu'en fait leur greffe allait être fusionnée avec le futur greffe du tribunal fusionné TGI. Tribunal d'instance, et ils savent très bien que c'est la première phase avant la disparition de leur juridiction.
Quelles sont les actions qui sont prévues ensuite après cette manifestation ?
Alors, nous avons quelques actions effectivement d'ampleur. Le 8 février, nous allons inviter tous les maires du ressort, il y en a 153, à venir à l'occasion d'une conférence qui concerne la médiation dans la cité. Donc, effectivement, quand on juge un dossier, on fait appel au juge, mais il y a d'autres façons de voir le contentieux, et ça peut être le recours à la médiation. Et nous ferons une exposition photo à ce moment-là. On présentera ce qu'est la justice au quotidien, les juges, et puis il y aura quelques photos aussi de nos manifestations. Nous avons prévu donc cette fameuse semaine de prévention au mois de mai sur la prévention drogue. Nous rencontrons effectivement aussi régulièrement nos députés. Et puis, il y a beaucoup d'actions de formation que nous faisons en commun aussi avec les magistrats. Et puis, c'est vrai que toutes les actions un peu coup de poing, on les adapte, je dirais, au fur et à mesure de l'évolution de l'actualité.
Vous avez bloqué le tribunal de Compiègne, il me semble. Vous avez bloqué pendant 2 jours, c'est ça ?
On l'a bloqué une matinée. Voilà, parce que le jour du blocage, malheureusement, c'était un jour de manifestation étudiante très violente. Okay. Et il nous a semblé opportun de lever à 11h ce mouvement pour ne pas fragiliser les forces de police qui devaient en fait réouvrir le tribunal.
Là, on peut retrouver des informations sur Internet. Vous êtes assez présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, pardon. Mm-hmm. C'est quoi l'intérêt d'avoir cette communication numérique ? C'est important de garder un lien avec la population via ces réseaux ?
Oui, tout à fait, parce qu'ils sont informés de nos actions. On fait aussi passer les projets de loi un peu simplifiés pour indiquer quelles sont les mesures qu'on combat aujourd'hui. Oui, puis on a souvent des retours importants. On demande aussi aux citoyens de signer des pétitions pour demander le retrait de projet de loi. Et puis, c'est vrai qu'on a des coups de fil, hein, et puis on répond aux questions aussi, et on garde le lien. Et puis, le lien est aussi, et notre relais aujourd'hui essentiel est aussi le maire. Et beaucoup ont pris d'ailleurs des motions en notre faveur en cette fin d'année. On les en remercie d'ailleurs, parce qu'ils sont aussi à nos côtés pour éviter les désirs judiciaires.
Là, sur les élus de La République En Marche qui sont présents, notamment la députée Carole Bureau-Bonnard, vous l'avez rencontrée ?
Oui, tout à fait, plusieurs reprises. Elle est très, très sensibilisée à notre combat. C'est quelqu'un qui a une proximité importante avec les territoires et qui comprend effectivement ce que pourraient être les effets dévastateurs, je pense, de la loi si elle était adoptée en l'état. Donc c'est quelqu'un que nous rencontrons régulièrement. Il y a une forte implication également du député Pierre Vatin qui nous a reçus au mois de novembre 2018 à l'Assemblée nationale avec d'autres députés La République, et nous avons discuté effectivement des effets néfastes du projet de loi.
Et sur les jeunes avocats, sur ceux qui vont enfiler la robe d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que ça joue sur leur futur emploi ? Est-ce qu'il y a un numerus clausus chez les avocats ou pas du tout ? Parce que c'est vrai que pour les médecins, en général, c'est aussi ça, le manque de candidats pour ouvrir des cabinets. Est-ce que vous avez un peu le même problème ?
Alors, on n'a pas la même problématique, et Dieu merci, la profession reste très attractive, donc il n'y a pas de numerus clausus. Par contre, le deuxième volet de la loi qui n'est pas encore voté et qui pourrait poser problème à nos jeunes confrères, ce sera toute la réforme de l'aide juridictionnelle et des nominations, ce qu'on appelle commission d'office, lorsque nous nous déplaçons aussi dans la gendarmerie et le commissariat. Et ça pose une vraie difficulté parce qu'aujourd'hui, en fait, ce sont des dotations que nous avons, nous, au niveau de nos barreaux. Donc, les avocats récupèrent ces fonds et on les redistribue à tous les confrères. Et nous, on a un pool pénal à Compiègne qui fonctionne de manière merveilleuse. Ce qui fait que c'est une grande fierté quand je me déplace en tant que bâtonnier dans les gendarmeries ou le commissariat d'entendre dire, écoutez, c'est extraordinaire. Dès qu'on appelle, il y a quelqu'un, parce qu'on a un pool très structuré. Demain, la donne serait changée parce qu'on nous dit, écoutez, ces budgets-là, on veut les réduire aussi. Donc, ce sera par appel d'offres. Et l'appel d'offres, ce serait que potentiellement un seul cabinet ou une structure autre récupère par exemple tout l'appel d'offres de ce contentieux sur Compiègne. Et puis là, nos jeunes confrères n'y auraient plus accès parce que ce ne sera plus le bâtonnier qui va désigner.
Parce que là, en fait, quand on se fait arrêter et qu'on fait une garde à vue, on peut avoir accès à un avocat commis d'office.
Voilà.
En fait, on ne le paye pas, il est indemnisé par un fonds, c'est bien ça si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, en fait, ça sera directement un cabinet qui aura l'entièreté des affaires.
Tout à fait. On peut imaginer que demain, ce serait un seul cabinet qui, par appel d'offres, remporte le contrat, parce que maintenant on parle de contrat, qui sera effectivement l'assistance en commissariat ou gendarmerie.
Là, l'indemnité, elle est de combien de 80 euros, c'est ça, à peu près ?
Ça dépend effectivement, oui, comme l'aide juridictionnelle, où ça dépend aussi des plafonds de ressources et puis de nombre de personnes dans le foyer. Et puis aussi, puisque vous abordez les tarifs, on a aussi les consultations gratuites qui pourraient être concernées aussi par ces contrats. Oui, les consultations gratuites, vous avez entre 60 euros et oui, tout à fait, par demi-journée d'intervention.
Donc là, c'est-à-dire qu'en gros, il pourrait y avoir un cabinet qui dit, nous, on le fait à 50 euros, c'est un peu ça.
Exactement. Ouais. Donc, dépréciation. Aujourd'hui du service public aussi d'assistance conseil, tout simplement l'avocat. Et on peut tout à fait imaginer que pour ça devienne effectivement uniquement un intérêt financier et qu'on perde effectivement ce service public qui fonctionne de manière merveilleuse, je dis sur Compiègne et je n'ai pas tort de le dire. Et ce sera une vraie difficulté parce que ça veut dire que lorsque vous demanderez l'assistance de l'avocat à 2h du matin, ce que font encore aujourd'hui les avocats qui sont de garde, nécessairement vous ne l'aurez peut-être pas avec un seul interlocuteur.
Quand on se fait arrêter et qu'on va du coup en garde à vue, on peut être jugé directement après cette garde à vue. Comment ça s'appelle déjà cette...
La comparution immédiate.
Oui. Vous étiez plutôt pour. Alors, le but, c'était un petit peu de désengorger les tribunaux. Mais souvent, on reproche à cette justice d'être un peu plus expéditive, de ne pas avoir le temps de rentrer dans le fond de l'affaire. Est-ce que pour vous, c'était une bonne chose, l'application de la comparution immédiate ou pas ?
Disons que la comparution immédiate a effectivement eu cette vocation de désengorger par rapport aux audiences de fond que sont le tribunal correctionnel. En général, quand même, sur les comparutions immédiates, ça reste réservé à des dossiers où il n'y a pas plus de contestation que ça, sur les moyens de preuve, les témoins. Et ça marche très bien. Et très souvent, d'ailleurs, vous avez des justiciables qui disent « Moi, je préfère tout de suite avoir potentiellement la sanction plutôt que d'attendre un peu plus. » Donc, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Pareil, c'est une réforme qui marche depuis plusieurs années, le plaidé coupable. Donc plutôt effectivement que d'aller sur une audience tribunal correctionnel, vous avez cet accord qui est passé avec les services du parquet, où on va effectivement tout simplement négocier une peine. Et vous vous rendez compte que ça fonctionne très bien, parce que voilà, le justiciable le sait, et puis ça permet d'aller sur quelque chose et un consensus. Donc ça, oui, il faut effectivement continuer à le faire, et vous pouvez vous opposer d'ailleurs, si vous ne voulez pas de ce qu'on appelle le CRPC, le plaidé coupable. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent bien, qui peuvent être améliorées d'ailleurs, on en discute régulièrement avec nos interlocuteurs, mais oui, il faut continuer à avoir ces voix quand elles sont choisies par les justiciables.
Là, on a l'impression par exemple sur les gilets jaunes que les comparutions immédiates sont, que vu que là on est un petit peu dans le feu de l'action, que du coup les jugements sont un peu plus durs que si elles avaient lieu dans un an ou quand le climat sera un peu apaisé. Est-ce que c'est le cas ?
En fait, il y a effectivement des condamnations, mais il y a beaucoup aussi de classements sans suite et d'absence de poursuite, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, des caméras qui vont prendre un tel ou un tel, si vous êtes cagoulé, si vous avez un masque, pour vous condamné en justice, c'est pas un moyen de preuve effectivement qui permet de le faire. Donc moi je trouve que la justice fait bien son travail sur cet aspect parce que y a beaucoup de poursuites qui ne donnent pas lieu à poursuites tout simplement ou à jugement de condamnation. Et on se rend compte effectivement que dans les cas de condamnation aujourd'hui, c'est quand même des faits d'une particulière violence.
Là, sur justement le masquage, les gens qui se cachent le visage aujourd'hui, alors il y a de plus en plus de caméras, mais la police utilise les caméras dans les villes, etc. Elle continue, il y a énormément de caméras qui parfois fonctionnent pas très bien pour résoudre des affaires. C'était le cas il y a quelques années. Je ne sais pas si aujourd'hui la résolution des affaires liée à la vidéosurveillance a augmenté. Mais est-ce que pour vous, c'est important de manifester le visage découvert, comme là, ils veulent faire passer une loi justement pour interdire en fait ces masques et ces cagoules, par exemple?
Il est certain que lorsque vous vous cachez derrière le bonnet, la cagoule ou tout simplement un autre ustensile, c'est que ça vous donne quelque part un droit à la casse, à la violence et tout simplement à l'absence de poursuite après. Donc c'est vrai que oui, on est en fait entre deux libertés. La liberté de manifester de manière libre, tout simplement, et puis d'un autre côté, la liberté aussi pour les citoyens tout simplement de pouvoir aller en ville et de ne pas être victime tout simplement de violences et de casse. Et c'est pas facile effectivement, c'est un sujet de société, on pourra en débattre des heures, mais je pense qu'il faut quand même au bout d'un moment permettre tout simplement la justice de faire son travail. Et aujourd'hui, quelqu'un effectivement dont vous ne pouvez pas identifier parce qu'il a même quelquefois même le masque de ski sur les yeux, c'est dommage.
Est-ce que ça anonyme... Enfin, le but, c'est pas d'anonymiser. Anonymiser, non, non. Ano... Ça, je vais le couper. Comment on peut dire anono... Est-ce que c'est pas le but, c'est pas de rendre anonyme en fait les gens dans la masse et de justement de faire une manifestation masse et qui est pas un individu qui soit vu sur une caméra ou puisqu'aujourd'hui si demain on manifeste et qu'il y a je sais pas BFM TV ou LCI qui nous filme, notre employeur peut nous voir par exemple.
Mais c'est vrai, oui, tout à fait. Bah, après c'est l'exploitation qu'on fait aussi de ces images parce que vous avez raison de le dire, l'image oui va être exploitée. Et on se dit tiens mon salarié gilet jaune, je suis contre les gilets jaunes. Oui, ça peut jouer aussi en sa défaveur. Mais bon, après, c'est le risque qui est pris, hein, de toute manière.
Du coup, sur les jugements, en général, les affaires qui sont classées sans suite, suite à des vices de procédure, c'est combien de pourcentage environ par comparution ? Est-ce que vous avez des chiffres sur...
Non, je n'ai pas de chiffres du tout sur les nullités de procédure, en fait, hein, qui pourraient
Parce qu'on pourrait imaginer que la police, il y a de moins en moins de policiers, font de plus en plus d'affaires, donc bâcle peut-être tout le côté administratif, qui peut avoir un avantage au tribunal pour pouvoir casser... des jugements. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ?
Alors, le cas aujourd'hui, et la question est intéressante, c'est que vous avez un rapport qui est paru en décembre 2018 et qui nous place en fait au l'avant-dernier rang européen sur le nombre de procureurs en Europe. C'est-à-dire que la moyenne, on est à 11,3 et c'est passé d'ailleurs à 11,7 en 2018. En France, on est à 2,9 procureur sur 100 000 habitants. C'est effectivement un constat difficile, puisqu'on se rend compte qu'à côté de ça, la délinquance augmente, et malheureusement en France, depuis plusieurs années, on est soumis en plus au contexte du terrorisme. Et lorsque vous regardez le nombre de dossiers qui est affecté en plus par procureur, le nombre de dossiers augmente. Donc c'est une vraie difficulté aujourd'hui pour ce corps de métier qui malgré tout reste attractif, bah, tout simplement d'avoir un travail efficient et de qualité lorsque vous êtes en sous-effectif dans des proportions absolument dramatiques.
Le procureur, c'est quoi le rôle du procureur exactement ? C'est d'être du côté de l'État, du côté de la justice, du côté de la collectivité, c'est ça ?
Voilà, le procureur, c'est celui qui représente l'État dans les poursuites pénales qui sont mises en œuvre. Donc c'est lui, effectivement, qui va recevoir les dossiers complets des gendarmeries et aussi des commissariats, qui va dire, voilà, ce dossier est complet ou pas, je vous demande un complément d'enquête. C'est lui qui va effectivement instruire ce dossier. Quand c'est trop complexe, on peut avoir un renvoi des dossiers au juge d'instruction. Et puis après, c'est le procureur qui, lors des audiences correctionnelles, va donc proposer la peine au nom de la société, voilà, en réparation par rapport à ce qui a été commis.
Les procureurs à Compiègne sont plutôt stricts ou plutôt assez... Est-ce qu'on risque beaucoup plus à Compiègne que dans d'autres tribunaux ou pas ?
Alors les procureurs...
Souvent, c'est le procureur qui fait la peine un peu. Qui fait la demande, en tout cas.
Oui, tout à fait, parce qu'il a ce qu'on appelle sa politique pénale à mettre en œuvre. Alors moi, je dirais, sans rentrer dans ce débat strict ou pas, ils sont extrêmement impliqués, parce que vous avez une procureure qui est là depuis plusieurs années, avec trois substituts procureurs de la République, et c'est un parquet qui tourne, je dirais, à plein régime. Parce qu'il y a effectivement une spécificité locale sur Compiègne, qui est les problématiques liées à la drogue. Oui, tout à fait. C'est pour ça que le parquet est aussi innovant, parce qu'on pourrait se dire, voilà, il ne pense qu'à la répression, alors que c'est un parquet qui réfléchit, à nos côtés d'ailleurs, à beaucoup d'actions de prévention.
C'est un parquet très féminin, parce que là vous avez dit que c'était une procureure, c'est ça ?
Oui, une procureure. Vous avez deux substituts femmes et un substitut homme, effectivement, il est féminin aujourd'hui. Comme d'ailleurs les avocates de Compiègne sont passées en majorité depuis quelques années.
Donc c'est une profession beaucoup plus féminine ou c'est une spécificité de Compiègne ?
C'est une profession qui est devenue féminine. Okay. Avec le temps, moi quand j'ai débuté, nous étions plutôt à une stat 60-40 professions masculines. La statistique s'est inversée depuis.
On va écouter un deuxième coupure musicale avec Théo Lorenz et ça sera le dernier morceau de cette émission. On se retrouve juste après ce morceau, il s'appelle « Never Let It Go ». We'll be right back. Radio Graphite la matinale, www.graphite.net, 94.9 FM, également disponible sur vos smartphones, sur vos box et un petit peu partout, les smart TV, également les assistants vocaux, un petit peu partout, donc n'hésitez surtout pas, si vous nous trouvez pas, envoyez-nous un petit message pour nous dire où vous nous trouvez pas et puis on essaiera de rentrer dans ces applications. Toujours en compagnie de Madame la Bâtonnière, Gwenaëlle Vautrin, pour nous parler de cette réforme des tribunaux et cette réforme de la justice. Avant de se quitter, comment les auditeurs, des jeunes auditeurs qui nous écoutent, comment on devient avocat? C'est quoi du coup le passage pour devenir avocat? C'est combien d'années d'études?
Alors, déjà, il faut effectivement concourir dans une fac de droit. Hein. Ensuite, il faut aller jusqu'au master 1 minimum. C'est vrai que dans les faits, on voit que c'est plutôt le master 2 avec déjà une notion de spécialisation. Il y a un concours à passer qui est difficile, mais quand on travaille, voilà, le concours...
C'est quoi? C'est apprendre des lois, apprendre des techniques? Qu'est-ce qu'on apprend exactement?
Disons que on travaille, hein, c'est un peu scolaire sur un sujet, il y a un sujet de synthèse, il y a des cas pratiques, on demande effectivement l'opinion, tout simplement par écrit, du futur avocat, pour savoir comment il entend traiter le cas pratique. Donc il y a l'épreuve écrite et après il y a les oraux. Donc on va effectivement valider que l'avocat connaît bien la matière pour laquelle il a entendu s'inscrire. Et ensuite, une fois le concours obtenu, vous avez une grande école nord de la France qui s'appelle l'ICSAD, qui accueille en fait les élèves avocats pendant 2 ans. Et donc vous êtes en alternance entre des cours et des stages, formation pratique en cabinet d'avocat.
Quelle est la qualité première d'un avocat quand on est étudiant et qu'on a cette qualité-là et on se dit, bon, journaliste, il faut être curieux, par exemple. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une qualité principale?
La rigueur. Ça, c'est très important. C'est la qualité première parce que c'est ce que nous demandent tous les jours nos clients. Hein. Respecter les délais, connaître les textes avec exactitude, nous mettre à jour de la jurisprudence et donc des décisions de tribunaux tous les jours. Et puis être travailleur, mais c'est comme dans toutes les professions. Et puis j'ajouterai surtout la passion parce que ce sont des métiers comme le milieu médical que l'on fait avec beaucoup de passion.
L'oralité et le fait d'être timide, est-ce que ça joue quand on va plaider? Est-ce qu'on joue un peu un rôle au tribunal? On a toujours l'impression que c'est un petit peu un grand théâtre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'autre au tribunal et quand vous êtes à l'extérieur?
Alors c'est vrai qu'il faut faire une différence entre tout le procès pénal que l'on voit dans les reportages vidéo à la télévision, où là on sait qu'il y a une certaine théâtralisation du procès. Et puis vous avez le courant, nos affaires courantes au conseil des prud'hommes, au tribunal de grande instance, où là on est quand même sur des plaidoiries plus techniques. Mais c'est vrai que oui, moi je vous avouerai que je suis une ancienne timide, je ne pensais jamais un jour être avocat et surtout plaider. Et c'est pas un exercice facile, on l'apprivoise au fil des ans, c'est effectivement très intéressant parce que vous arrivez à faire passer par la plaidoirie une force de conviction. Et pour nos clients aussi, c'est très important que nous portions la parole de ce qu'ils veulent entendre par rapport à leur procès.
Il y a de plus en plus de concours de plaidoirie pour des jeunes, pour des lycéens, pour des collégiens, des concours d'éloquence. Est-ce que vous participez à ce genre de choses? Est-ce que vous donnez des cours?
Oui, alors en fait, on nous demande de participer en tant que juré. Donc, on est invité régulièrement et je trouve que c'est assez génial parce qu'on voit des prestations, notamment de collégiens, qui sont bluffantes. Et ça permet justement, lorsqu'on entend parler d'organisation d'ateliers de théâtre ou de ce style de concours de plaidoirie, de mettre les jeunes sur un rapport justement par rapport à l'adulte, qui est vraiment fantastique parce qu'ils vont perdre la peur tout simplement d'adulte et c'est vraiment très chouette en tout cas.
Est-ce qu'il y a moyen de découvrir la justice sans passer devant la justice? Est-ce qu'il y a des portes ouvertes, un peu comme le Jardin du Patrimoine, où on peut venir rencontrer les avocats, les bâtonniers, etc.?
Oui, et ça, il faut le faire. Donc ça dépend vraiment des initiatives locales de proviseurs ou de directeurs d'établissements privés qui en général appellent le président du tribunal, donc soit au tribunal de grande instance, au conseil des prud'hommes. Et là, en fait, la classe, c'est souvent une classe, va être accueillie, je dirais, en VIP et va pouvoir participer au procès, l'entendre. Et en général, après, il y aura un débriefing qui va être fait avec les étudiants. Et c'est vraiment, et de toutes les expériences qui ont été faites, quelque chose d'extrêmement positif. Puisqu'on va rencontrer la justice, non pas sur le côté répressif, si un jour, malheureusement, on y a accès par ce biais-là, mais vraiment avec un outil pédagogique qui est vraiment très, très bien fait.
Tous les citoyens inscrits sur les listes électorales peuvent tirer au sort pour être jurés. Comment ça se passe? C'est uniquement juré pour les assises ou il y a juré également pour les prud'hommes et pour ce genre de choses?
Non, alors c'est uniquement pour les assises hein, qui sont à Beauvais et puis dans des procès voilà, qui touchent quelquefois les mœurs, la violence, qui sont en général assez difficiles hein, pour les jurés par rapport aux faits qu'ils sont amenés à juger.
Donc là, il faut, en fait, on reçoit un courrier à la maison pour nous dire qu'on est, enfin, déjà qu'on est nommé pour être juré et ensuite on est choisi le jour J.
Voilà, avec les tirages au sort. Et puis c'est très difficile aujourd'hui, entre parenthèses. Avant, vous pouviez dire à l'employeur, écoutez, je ne souhaite pas y aller, faites-moi un courrier disant qu'il y a telle mission professionnelle. C'est moins vrai aujourd'hui. Mais souvent, le juré ne va pas y aller, non pas parce qu'il ne veut pas participer à cette mission de service public, mais parce que c'est justement les faits qui peuvent le heurter par rapport à, voilà, à ce qu'il n'a pas envie d'entendre.
Ouais, c'est compliqué. C'est qu'on voit des photos, ouais. Enfin, on rentre dans l'affaire vraiment dans toute la ferme.
Toutes des faits de mœurs. Et puis souvent, quand ce sont des femmes, ça touche les enfants, les viols sur enfants, et c'est vraiment très très dur. Et souvent, elles fuient cette tribunaux-là parce que c'est trop dur pour elle.
Souvent, les deux avocats, les deux parties peuvent refuser en fait des jurés, c'est bien ça, si je ne dis pas de bêtises?
Ah, ce sont des règles effectivement assez compliquées lorsqu'il y a présentation et tout à fait, on rentre un peu dans la technique.
Où est-ce qu'on peut retrouver des infos? Donc, vous avez un site internet avocat-compiègne.fr, c'est bien ça? Là, on retrouve tous vos collègues dans ce site, on retrouve les contacts de tous vos collègues?
Oui, tout à fait. Il y a une présentation de tous les avocats qui constituent le barreau. Après, sur l'actualité, on a des jeunes avocats, et je les en remercie, qui font une actualité sur Twitter et sur Facebook. Donc là, on a les infos, effectivement, sans difficulté.
Et on vous retrouve cet après-midi en train de manifester?
Tout à fait. Et donc, nous espérons être plus de 4000 personnes, ce qui était le nombre atteint l'année dernière.
Merci beaucoup d'être passé dans nos studios pour nous parler de cette réforme. On espère qu'on vous recevra peut-être pour la suite, savoir si cette réforme va être abandonnée ou pas. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On se quitte en musique et je vous rappelle que ce soir, on sera au cinéma Le Majestic pour vous présenter le film de Luc Besson, Le Grand Bleu. Ça sera dans la salle Ice, évidemment, avec cette magnifique BO qu'on connaît tous. Tout de suite, on écoute le générique de fin. À demain, bonne journée. Et demain, on se retrouve à 7h30 et on parlera des Vitraux d'Isabeau, une association compiénoise.